Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Des Périphériques vous parle, préparée par Yovan Gilles et Marie Barbet. Aujourd'hui, nous entamons le cycle Parole de femmes, un cycle d'émissions qui donne la parole aux femmes sur les questions des discriminations. Tout de suite, une rencontre avec Ramatou, jeune française d'origine malienne, qui témoigne de la situation flagrante de mal logement à Villeneuve-Saint-Georges. Le 30 avenue de Valenton est un bâtiment délabré et toujours habité. Ceux qui y vivent se débattent encore dans des imbroglios juridiques pour faire valoir le droit à un logement décent.
Et en deuxième partie d'émission, nous vous proposons un entretien avec Nadine Jasmin, qui a fondé l'association Éclat de Voix, et qui présentera un ouvrage collectif intitulé « Exploiter le travail invisible des femmes », faisant état des discriminations touchant les femmes dans le monde du travail, mais aussi de propositions pour y remédier. Et comme le disait Marie, nous allons écouter maintenant Ramatou. Bonjour Ramatou.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour évoquer la question des discriminations. Vous êtes née en France ?
Oui, je suis née en France, à Paris. Oui, j'ai grandi à Villeneuve-Saint-Georges.
Quel type d'études vous avez suivi ?
Maternelle, primaire. Ensuite, j'ai été au collège Jules Ferry, qui se trouve juste à côté. Ensuite, j'ai fait un BEP métier de la mode à Champigny et un brevet de technicienne en création sur mesure.
D'accord. Et donc ça, c'est votre projet d'avenir, c'est le stylisme en
quelque sorte. Voilà,
d'accord. Et c'est une activité que vous exercez pour le moment ou elle est un petit peu en bas en
tête ? Oui, je fais de la couture, j'ai des clients, je fais de la couture pour eux.
D'accord. Et vous êtes optimiste par rapport éventuellement au succès de votre futur parcours professionnel ?
Plutôt oui, parce que j'en ai parlé à un certain nombre de personnes et beaucoup de personnes sont intéressées, donc je suis plutôt optimiste.
Vous avez plutôt la perspective, ce que nous disait Jérôme, d'une création d'entreprise.
Exactement, exactement.
D'accord. Donc là, nous sommes devant un bâtiment. Quel est ce bâtiment ?
Alors là, c'est le bâtiment du 30 avenue de Valenton. Ils sont en train de faire des travaux, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est des logements inhabitables, parce que c'est dans les fondations même qu'il y a du plomb, donc beaucoup d'enfants sont malades à cause de ça. Et ils devraient détruire le bâtiment.
D'accord. Donc pour vous, lorsqu'on évoque la question des discriminations, j'imagine que la discrimination au logement aujourd'hui, le droit au logement, c'est peut-être ce qui est le plus problématique, non ?
Oui, je pense, ouais. Par rapport à l'administration, la mairie, je vais un petit peu pointer le doigt sur eux, parce que c'est eux qui font bouger les choses, normalement, dans une ville. On a fait plusieurs demandes, plusieurs requêtes auprès de la mairie, mais on ferme les yeux. On ferme les yeux sur nous. C'est peut-être par rapport à la discrimination, je pense.
Et par rapport au cas de saturnisme, ils veulent pas en entendre parler ?
Ben, on leur en parle et quand on se rend à la mairie, ils font semblant d'être vraiment intéressés, touchés, mais il n'y a rien qui bouge après. Il n'y a rien du tout qui bouge. Hein.
C'est-à-dire que ça impliquerait quoi, de remplacer des sanitaires, des canalisations ?
Tout.
Tout ?
Ouais. Carrément tout remplacer.
Et c'est là que vous logez ?
J'habitais là avant.
Vous habitez là ?
J'ai déménagé il y a 2 ans.
Et à votre avis, pourquoi il y a une réticence de la mairie à agir, à améliorer les conditions de logement ?
Parce que ça coûte cher. Je pense que c'est par rapport au coût. Ça coûte très cher de reloger, peut-être de carrément faire des reconstructions. Des lieux. Il n'y a pas que ce lieu qui est abîmé. Il y en a beaucoup d'autres à Villeneuve-Saint-Georges.
Vous pensez qu'il n'y a pas aussi une corrélation peut-être entre le statut précaire de certaines populations et disons la mauvaise volonté entre guillemets de la municipalité ou vous pensez que c'est...
Non, je pense que aussi ça en fait partie. Hein. Ça doit jouer un rôle dedans. Parce que la mairie c'est très important. Ça devrait aider les habitants de la ville. Mais non, ça ne bouge pas.
Par rapport à la question des origines, vous pensez qu'il y a...
Je pense, oui.
Ouais.
Je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains et d'autres origines qui sont en difficulté hein, sur Villeneuve-Saint-Georges. Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas qu'ici.
Donc, finalement, là, c'est un ravalement, en quelque sorte.
Oui, exactement.
Mais tu me racontais tout à l'heure, en plus, il y a un bailleur privé derrière,
oui.
Derrière
oui. Oui, il est là.
Et
il existe. Hein. Ouais. On ne dirait pas, mais il existe. Il a fait des travaux, en fait c'est des travaux extérieurs au logement. C'est pas dans les appartements, mais de l'autre côté, je ne sais pas si on pourra aller voir tout à l'heure, c'est de l'autre côté, il a refait la peinture dans les escaliers. Depuis que j'étais là, ça fait une dizaine d'années, Ils ont construit une terrasse, là, de l'autre côté aussi, mais jamais fait travaux dans les appartements. Jamais. Ils n'ont jamais fait.
Par rapport à ces situations alarmantes, puisqu'il y a quand même des cas de saturnisme, quels sont les moyens que vous avez de recours, de vous manifester, de protester par rapport à l'inaction quoi,
On a l'association Asphalt qui nous a aidés, qui nous a beaucoup aidés à faire bouger les choses, puisqu'ils étaient en relation avec certaines personnes de la mairie. Et je pense qu'à la mairie, de voir des personnes blanches, on va dire, hein, et qui ont un statut associatif, je pense que ça fait plus bouger les choses.
Mais lorsque, par exemple, il y a des cas de saturnisme, j'imagine que les enfants qui sont examinés par l'hôpital,
oui,
j'imagine que les soignants là, se disent, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Le saturnisme, c'était quand même quelque chose qu'on a connu en France. Ça renvoie plutôt à la fin du 19e oui, siècle. Hein, donc,
Ils étaient étonnés et ils trouvaient ça catastrophique de laisser encore des personnes habiter dans des logements avec du plomb dans les murs. Et moi, mon petit frère, il a été hospitalisé plus d'une semaine à l'hôpital parce qu'il avait énormément de plomb dans le sang. Et ils étaient choqués, quoi. Claire et net, ils étaient choqués.
Et les prix des loyers sont élevés ou pas?
Ça varie entre 500 et 700 euros.
Pour une surface de
90 mètres carrés, on va dire.
D'accord. Donc, oui, c'est quand même des...
Mais c'est pas tous les appartements. Il n'y en a qu'un seul qui fait plus de 90 mètres carrés.
D'accord.
Les autres, ils sont petits. Ils sont très petits. Et vu qu'avant, c'était pas des logements, c'était un centre hospitalier. Ils ont racheté ça et l'ont transformé en logement.
Donc voilà. Si c'était un loyer au rabais à 200 euros, on pourrait comprendre qu'ils n'aient pas trop d'enthousiasme à faire les travaux, mais là, c'est quand même un vrai loyer que vous payez, 500, 700 euros.
C'est un vrai loyer,
À Villeneuve-Saint-Georges, donc, là.
Ouais. Vous avez habité combien de temps ici?
11 ans.
11 ans?
Ouais.
Dans cette maison?
Ouais.
Et il y a combien de familles?
Là, il en reste pas beaucoup. Il reste 4 familles. Il reste 4 familles. Ouais, Malienne.
Et vous étiez au courant dès le départ du problème de plomb?
Non.
Vous
non,
l'avez su il y a combien de temps?
Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans qu'on l'a su.
On vous avait pas informé avant?
Non. Ouais, ça fait même 3 ans.
Mmh.
Ouais. On ne savait pas du tout.
Comment vous l'avez su?
C'est par rapport à mon petit frère. On a vu qu'il commençait à être hyper malade et tout. Il avait les yeux qui gonflaient. On l'a emmené chez le médecin, chez Marc Titon. Et il a vu qu'il avait du plomb dans le sang. Et on a fait des prises de sang et tout. Et il a vu qu'il avait du plomb, que c'était pas normal. Donc il a dit que ça venait sûrement de là où on habitait. Ouais.
Donc vous avez une utilisation maintenant uniquement en bouteille d'eau minérale, des choses comme ça. Enfin, j'imagine des années.
À partir de ce moment-là, vous avez fait une demande pour être relogé?
Oui, exact. Ça faisait plusieurs années déjà qu'on avait fait une demande. Ça faisait depuis qu'on est arrivé, peut-être 2 ans après qu'on est arrivé, parce qu'on a vu que la maison, elle n'était pas comme on pensait qu'elle était. On a vu qu'il y avait beaucoup de dégradation. Parce que quand on a fait la visite avec la personne qui voulait nous louer l'appartement, il ne nous a pas montré toutes les faces cachées, en fait. Mmh. Donc on a vu, on a fait une demande et auprès de l'office HLM, de plusieurs organismes, mais ça n'a pas bougé. On était à chaque fois obligé de renouveler la demande, mais ça n'avait pas bougé. C'est depuis que vraiment, depuis l'association nous a aidés, que ça fait bouger les choses. Hein. Sinon,
Vous pensez que ça bloque plus du côté de la municipalité ou du bailleur?
Peut-être de la municipalité. Parce que le bailleur, lui, il s'en fiche, il loue son appartement... Et puis voilà, mais la mairie devrait normalement nous louer des appartements plus facilement, parce que c'est eux qui s'occupent de ça.
Et vous avez mis combien de temps à être relogé?
À être relogé depuis le problème du plomb, 2-3 ans. Ça a mis du temps.
C'est long.
Ouais, ça a mis du temps.
Et la mairie, elles étaient au courant des problèmes?
Oui, ils étaient au courant. Ils savaient très bien que c'était un centre hospitalier. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Même quand on passe là devant, on voit que c'est hyper dégradé. Hein. On le voit, ça.
Et les familles qui sont restées?
Oui.
elles savent maintenant qu'il y a ce problème.
Oui.
Elles restent quand même, elles ne savent pas où aller.
On leur a proposé des appartements, mais beaucoup trop chers pour eux. Donc ils sont obligés de rester, ils sont obligés de rester là jusqu'à trouver une bonne opportunité de partir. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans un autre appartement, sachant qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. C'est pas possible. Pour après se retrouver à la rue, peut-être. C'est pas une bonne solution.
Et vous avez bon espoir que ça s'arrange un jour, ou alors vous résignez un peu à cet état de fait?
Ben non, je pense que ça va s'arranger, j'espère bien. Il faudrait bien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Hein. On a beaucoup, c'est surtout ça le problème.
Je veux savoir aussi qu'il y a beaucoup d'habitants précaires à Villeneuve.
Oui, à Villeneuve-Saint-Georges, j'en connais beaucoup quand même.
Avec les mêmes problèmes de saturnisme
Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est dégradé, mais je ne sais pas s'il y a du saturnisme. Je ne sais pas.
Parce qu'on a coutume en général de dire que lorsqu'il y a des vieux immeubles, le ravalement, c'est toujours ravaler les façades. Ça permet de donner une apparence de
l'apparence, chute,
à l'extérieur et en général,
à l'intérieur.
Chez les onéreux, c'est le plus beau, c'est-à-dire c'est la structure interne.
Ouais.
Les infiltrations d'eau,
Ouais, il y a beaucoup de fuites, c'est surtout au niveau de la plomberie, carrément au niveau du sol. À l'intérieur, c'est du carrelage, dans tous les appartements, c'est du carrelage. Mais il y a des carreaux qui s'en vont. Il y a carrément des trous dans le mur et tout. C'est incroyable. On se demande comment les gens font pour vivre encore dedans, mais on n'a pas le choix.
Et comment vous entrevoyez la suite au niveau de faire valoir vos droits concernant le logement? Est-ce que vous pensez que ça passera par une action collective, une mobilisation sur Villeneuve-Saint-Georges? Ou vous pensez que c'est plutôt un règlement cas par cas individuel?
Je pense que pour ça, il faut être en groupe. Hein. Il faut se rassembler, faire des rassemblements, pourquoi pas des manifestations. Parce que quand on se déplace individuellement à la mairie, on ne nous écoute pas. On ne les écoute pas du tout, on ne nous considère même pas, j'ai l'impression. Donc,
Vous n'avez jamais conseillé d'avoir un recours en justice?
Si, par rapport à l'association encore. C'est eux qui nous ont conseillé d'attaquer le propriétaire en justice, ce qu'on a fait, par rapport aussi à cause des enfants malades. Donc on a été obligés de l'attaquer en justice. Et puis voilà.
Ça a donné quoi?
En fait, on n'a rien eu à payer parce que pendant un moment, on a arrêté de payer le loyer. Vu qu'on a vu qu'il n'y avait aucune aide du propriétaire, on a arrêté de payer le loyer. Et il a été puni, il a eu une amende et il risque même la prison.
Ouais. Et en ce qui concerne l'état de santé des enfants, ils vont mieux ou ils ont des séquelles?
Ils vont mieux, mais ils ont des séquelles quand même.
D'accord.
Ouais. Parce que ça attaque pendant plusieurs années au niveau du cerveau. Ça attaque le cerveau quand ils ont beaucoup de plomb dans le sang et au niveau de la mémoire et tout.
Et c'est irréversible, les séquelles,
En fait, ça s'estompe sur plusieurs années.
Ça s'estompe quand même. Ouais. Mais l'action justice, elle est en cours?
Là, elle a été arrêtée, je crois, parce qu'en fait, on n'est que deux familles à avoir attaqué le propriétaire. Les autres ne voulaient pas. Il y en a même, ils n'ont pas les moyens de payer l'avocat. C'est environ 1 200 euros, mais il y a une aide juridictionnelle.
Ouais.
Donc, mais il y en a qui ne voulaient pas, après, pour peut-être d'autres raisons, mais je ne sais pas. Je sais pas
c'est vraiment Asphalt qui a appuyé,
ouais.
En fait,
ils n'ont rien fait du tout. Parce que quand on se rendait à la mairie, c'est même pas... ils ne nous regardaient même pas. Hein. Genre, limite, on pouvait partir. Hein. Quand on voulait voir le maire, c'était impossible. Hein. On allait là-bas, ils ne considéraient vraiment pas. C'est le problème de la mairie de Villeneuve. Franchement, c'est affolant. Quand ils vont voir une maman africaine là, partir à la mairie, ils ne vont même pas la regarder. Hein. C'est à peine s'ils disent bonjour. Hein. Ça, franchement, je vous le dis, parce que j'y suis allé plusieurs fois. En plus, même pas à cause du 30 avenue de Valentin. Pour moi-même, je suis parti, mais ils s'en fichent. Hein. Ils savent qui on est, ils savent où on habite parce qu'ils nous connaissent bien.
Viens là-bas. processus, il ne vivait pas.
Non, en plus, c'est d'autant plus grave que vous payez des loyers élevés, des loyers normaux.
Non, nous on paye les loyers, quand on paye. Hein.
Oui, c'est en plus, c'est des loyers, c'est pas donné. Quoi.
Nous, on n'est pas comme. Nous, on paye. Hein.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Pas longtemps. Non.
Et vous êtes déjà allé à la maison directement?
Si, c'est déjà allé là-bas. C'est déjà allé là-bas.
Ils ont bouqué. Enfin, ils vous ont reçu.
C'est déjà allé là-bas, il n'y a rien. Toujours, il n'y a rien. C'est ça.
Donc, pour ça, c'était la fête de la cuisine ici, là où j'habitais. Avec des volets qui ne se ferment pas, une fenêtre cassée.
Ouais.
Qui, en plus, qui donne sur les escaliers, là, c'est pas.
Il
n'y
a pas de lumière en fait.
Non, il n'y a pas de lumière. L'année, là, ici, il n'y a pas de lumière.
Ouais, il n'y a pas de lumière là.
Il n'y a pas de lumière.
Et là, avant même, ils ont refait d'ailleurs. Là.
Il faut aller de l'autre côté, il n'a pas fait de l'autre côté.
Parce que ça, il n'y avait pas avant. Ouais. C'était cassé, c'est resté un moment sans.
Ouais. Sans
ouais.
Rentre,
l'escalier.
Ouais.
C'est resté
pas enfants.
Ah bah, il n'y a rien de tout. Il ne faut plus pas ici. Là, l'autre côté, ils sont
c'est hyper dangereux. Vous voyez comment c'est où là. S'il y a un enfant qui tombe, il se fait hyper mal.
Ouais.
Et donc c'est cette terrasse-là qu'il a fait
non,
avant
c'est là. C'est là qu'ils ont fait.
Là-haut
ouais. C'était de la boue avant, c'était de la terre. Hein.
Ah, ici, là, la cour, là.
Là, là-haut. Ce qu'il y a là. Bah, avant, c'était comme là, derrière, vous voyez, là. C'était comme là. Là, c'est les toilettes. Hein. C'est les toilettes. Ouais, c'est la fenêtre des toilettes. Et là, c'est la fenêtre de la salle de bain. Là, c'est celle de la cuisine. Là, la porte d'entrée, elle est juste ici. Et là, ils ont refait là, c'était l'été dernier, je crois qu'ils ont refait ça. C'est ça, les travaux. C'est ça, là. La fenêtre, avant, c'était une fenêtre battante, comme ça. Enfin, une fenêtre coulissante, c'était ça.
Et là, aussi,
il y a ce qu'ils ont refait, là, comme travaux dans les escaliers. C'était. Ça se voit pas en plus. Hein. C'était là. Vous voyez le blanc là? C'est ce qu'ils ont refait.
D'accord.
C'est vraiment. Ils ont refait ça là. Et là, le blanc qu'il y a ici, c'est ce qu'ils ont refait comme travaux, ce qu'ils appellent des travaux. Et là, vous voyez, là où il y a le tissu là, il n'y a plus de barre là. Il n'y a plus de barre comme ça.
Et quand ils ont fait les travaux, ils ont pas, il y avait déjà plus les barres et les.
Ouais,
les
ça fait longtemps qu'elles sont plus là les barres. Hein. Ça fait hyper longtemps. Hein. Ouais, ils font ce qui sert à rien en fait, hein. Histoire de dire qu'ils ont fait des travaux. Et le responsable même, le sous-chef que je vous ai dit qui est venu, il a regardé il a bien constaté qu'ils avaient fait la peinture. Ouais, il est venu pour ça en fait. Et là aussi, c'était cassé, c'était du verre comme ça, une vitre. C'était cassé, ils ont remis ça. Vous savez que les ampoules, c'est nous qui les changeons avant, les ampoules là.
Alors que c'est à la copropriété normale.
Ça va être faire ça, mais il y a vraiment des trucs, on était dépassés, donc on s'est débrouillé tout seul.
Et puis tu m'as dit, le mec qui a fait les travaux, il était payé au black.
Ouais. Mais ils sont courants, mais ça c'est pour l'argent, franchement. C'est pour l'argent tout ça.
C'est quand même hallucinant parce que tu vois que ça va, c'est en train de s'effondrer. Quoi.
Non, c'est quoi, il y a la peinture là, tout qui est par là.
Sur l'action de justice, ils sont venus ici. Ils ont envoyé des gens pour constater, pour.
À ma connaissance, non.
Non, mais c'est vrai que même, il y a une abuse.
Mais lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Si la mairie n'avait pas la pression au propriétaire, même si c'est un propriétaire privé, c'est clair qu'il va rien faire, il s'en fiche, il n'a pas peur. Hein.
Thank you. yogun, de nita yogun. Nita ta yogun, de nita yogun. Abdu uyamba, nyari malaikala. Hawe echiko dano sisero momu morida degam juninga momu morida degam wanga Dano sisero Momu Munida Degam Juninga Momu Munida Degam Wonga Tajabon Deni Tajabon
Wale, 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 wale.
Abdu Jambar,
wale.
Nyari malaikala,
wale.
Sikau lay joge,
wale.
Dano si serum,
wale.
Munila,
wale.
Degam juliga,
wale.
Munila,
wale.
Degam woga,
wale.
Bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Des Périphériques vous parlent. Tout de suite, Nadine Jasmin nous présente l'ouvrage collectif Exploiter, le travail invisible des femmes.
Donc bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nadine Jasmin. On va parler d'un livre dont tu as en quelque sorte coordonné la rédaction, dont tu es l'inspiratrice, mais qui est le fruit d'un travail collectif. Dont tu vas nous parler. Donc, ce livre est paru aux éditions Les Points sur les I. Donc, ça s'intitule Exploiter, point d'interrogation, le travail invisible des femmes. Alors, tu aimes à dire que ce n'est pas ton ouvrage à proprement parler. Il y a aussi des collaborations, notamment celle d'un sociologue et formatrice, Dominique Poggi. Mais surtout, c'est un travail qui dresse une sorte d'état des lieux. Du travail invisible des femmes, justement, que ce soit le travail domestique, le travail déqualifié, les cas de souffrance au travail, réunissant des témoignages divers et variés avec aussi bien des femmes issues de l'immigration que des femmes, disons, entre guillemets, françaises de souche. Et surtout, il y a également une mise en perspective d'un certain nombre de propositions dont tu dis que ce sont des propositions justement à soumettre à discussion, très concrètes pour la plupart. Comment, par exemple, éviter la pénalisation du travail des seniors? Quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour les femmes pour une formation continue, viable économiquement? Voilà, donc on a à la fois ce travail d'analyse, de collectage de témoignages et en même temps un certain nombre de propositions qui d'ailleurs se dénombrent par dizaines et qui sont très détaillés sur des points spécifiques. Alors comment, ce n'est pas le premier ouvrage, mais il faut dire pour nos éditeurs que ce travail est véritablement aussi été l'occasion de la création d'un collectif, donc sur lequel tu pourrais nous revenir peut-être.
Alors c'est vrai que ce travail est lui-même le fruit d'une histoire, puisque j'avais mené un premier travail au sein d'une association déjà existante qui visait à interroger une vingtaine de femmes habitant ou travaillant dans l'Est parisien, des femmes plutôt en difficulté socio-professionnelle, et l'idée c'était de les écouter, raconter leur parcours au travail, leur vie de femme au travail avec toutes les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et donc ça a donné lieu à un premier livre qui s'est appelé « J'ai trop trimé », travail de femme, parole de femme, avec le collectage de la parole donc de 20 femmes et leur témoignage brut. Et ça m'a donné envie de continuer, de passer des constats à des analyses ou des propositions, d'aller plus loin en tout cas à partir de ce matériau, voilà, qui vraiment dressait un état des lieux souvent terrifiant et toujours passionnant en tout cas, du travail des femmes. Donc j'ai monté une association qui s'appelle Éclat de Voix. Éclat de voix à la fois parce que c'est un cri de colère, c'est un coup de gueule, éclat de voix, et puis aussi pour l'éclat, pour le chatoiement, la lumière, la force, enfin toute l'énergie de ces paroles de femmes. Et donc l'association a déposé un projet qui a été financé pour réunir une vingtaine de femmes, les écouter, raconter leur parcours là aussi de femmes au travail, et surtout animer un atelier collectif pour arriver à un livre qui soit un livre coécrit par l'ensemble des participantes.
Donc, oui. Peut-être que d'autant que la prise de parole sur le travail, vu que nous sommes impliqués tous deux dans ce vaste projet Travail-Démocratie, dans ce collectif Travail-Démocratie, la prise de parole sur le travail, que ce soit par les hommes ou par les femmes, n'est pas évidente a priori. Il y a quand même des résistances ou des réticences. J'imagine que cette première prise de contact n'a pas non plus été évidente. Ou comment ça s'est produit? Ce sont des femmes, comment d'ailleurs tu les as rencontrées? Ça c'est intéressant.
Je les ai rencontrées par le réseau de l'insertion sociale professionnelle, c'est-à-dire que j'ai animé des réunions à destination des travailleurs sociaux, en leur présentant le projet et en leur demandant de m'adresser des femmes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées. Alors il y a des femmes du premier projet qui se sont retrouvées dans le deuxième, parce que quand vous donnez la parole, vous laissez un champ libre à la parole, une fois qu'on l'a prise, on ne la rend pas, heureusement. Donc plusieurs femmes du premier projet ont pris la parole. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, résistance, réticence, peut-être au sein du monde du travail, où il est quasi impossible de prendre la parole en liberté. Par contre, ces femmes-là, elles avaient un besoin de parole, d'expression, une très forte conscience qu'elles ont vécu des choses exceptionnelles, non pas par la teneur, mais exceptionnelles en intensité, en difficulté, en souffrance, en passion aussi. Et elles étaient toujours animées par une volonté très forte de raconter leur histoire, de prendre la parole et surtout de faire bouger les choses. Donc c'est pas du tout elles qui étaient résistantes ou réticentes, c'est plutôt le monde du travail, voire la société, qui ne laisse pas le champ libre à cette parole. Donc elles ont été adressées par des travailleurs sociaux, les orientations étaient souvent très pertinentes et elles ont été très majoritairement enthousiasmées par la proposition, d'abord de raconter leur travail individuellement et puis surtout de se rencontrer entre elles pour construire un projet collectif. Voilà. Et que ça débouche aussi sur un livre, c'est-à-dire que ça débouche sur quelque chose de concret, de constructif, qui a une existence autonome et qui soit un projet ensemble. Voilà,
et ça les a motivées. Et d'autant un ouvrage aussi qu'elles peuvent peut-être revendiquer comme un outil, une arme pertinente, une arme symbolique pertinente pour essayer de se débattre et de se démêler dans des situations qui sont parfois défavorables pour elles.
Alors oui, ce que le bouquin leur a vraiment apporté d'abord, je crois, c'est une prise de conscience personnelle. Quoique la prise de conscience, je pense qu'elles étaient déjà dans une dynamique, sinon elles ne seraient pas venues dans ce projet. Mais surtout, ça a changé leur rapport à la fois au mari, aux enfants et aux employeurs. Voilà. Donc pour elles, ça a été vraiment une émancipation, soit au sein du couple, de ne plus accepter par exemple les divisions domestiques ou la soumission de la femme, et aussi vis-à-vis des employeurs. Il y a une anecdote que l'une de ces femmes vient de me raconter. Il s'agit de Salimatou, qui est guinéenne et qui, ayant été une grande restauratrice dans son pays, s'est retrouvée par le contexte personnel et sociopolitique en France à faire des heures de ménage. Et donc elle a eu un problème avec son employeur et elle a brandi le bouquin en lui disant « Attention, je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour faire une enquête sur les conditions de travail, sur la souffrance au travail dans ce milieu professionnel ». Et son employeur a complètement paniqué et la question s'est résolue comme par miracle. Voilà. Donc là, c'est vraiment un cas où elle a pu utiliser ce livre comme une arme dans le rapport de force inégal avec l'employeur. Mais ça a été le cas pour plusieurs autres. Coca, par exemple, l'une de ces femmes, l'une des co-autrices.
Que nous entendrons d'ailleurs parler dans une émission ultérieure.
Voilà, donc Coca a aussi trouvé le courage à travers le côté collectif de ses rencontres et le fait d'être confrontée à d'autres histoires, d'autres parcours, d'autres femmes. Elle a trouvé le courage là aussi et la force de réussir à obtenir la formation qu'on lui refusait, une formation professionnelle que son assistante sociale était réticente à lui accorder parce qu'elle avait 5 ans. Elle avait 55 ans et que la formation allait durer quasiment 2 ans. Voilà, bon, j'exagère là peut-être un peu moins de 55 ans. Donc l'action collective, le fait de participer à un projet leur a permis, leur a donné des armes vraiment dans le monde du travail, je dirais, pour être debout face à l'employeur, pour ne plus être soumise, pour refuser de mauvaises conditions de travail. Et je pourrais citer d'autres exemples de femmes du projet qui ont par exemple refusé des contrats scandaleux où on leur demandait de se mettre à leur compte à moitié au noir, etc. Et non, elles ont acquis une dignité dans le monde du travail qui est maintenant opposable à l'employeur.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, de l'évolution de la situation générale du travail des femmes sous l'angle d'un certain nombre de discriminations, dont certaines, bien évidemment, ne sont pas légales, puisque, par définition, la discrimination est toujours dans le cadre d'une pratique illégale, dans le cadre d'une pratique sociale, culturelle, de mise à l'index qui est très suspecte. Subtil, qui ne dit jamais son nom. La discrimination ne s'affiche jamais au grand jour, sauf à travers éventuellement des injures racistes. Mais dans le cadre du monde du travail, ça prend des formes relativement complexes. En plus, selon qu'il s'agit de femmes françaises, entre guillemets, issues d'une souche française, comme on dit, ou de femmes qui vivent d'une manière beaucoup plus dur encore le travail des qualifiés du fait de situation d'une insécurité sociale accrue par le fait qu'elle soit immigrée. Donc, mais comment tu dresses aujourd'hui, comment ça évolue à ton avis? On a véritablement une dégradation, une multiplication des formes de précarité du travail des femmes. Comment tu jauges un peu la situation générale aujourd'hui?
Alors, sans être sociologue, donc sans avoir le recul d'une sociologue, ce qui me frappe, c'est l'écart qu'il y a entre, d'un côté, la massification de la présence des femmes dans le monde du travail. Donc elles sont entrées globalement et massivement dans le monde du travail, elles représentent maintenant 50% des salariés. Donc c'est l'écart entre cette présence massive et la persistance des discriminations. Moi je suis atterrée quand on a commencé à écrire le bouquin en cherchant des données sociologiques, j'ai été stupéfaite des chiffres qu'on a trouvés. Je ne pensais pas que les discriminations sexuelles ou que le harcèlement moral pouvaient toucher. Alors quand on dit 15 ou 20% de femmes, ça veut dire 3 ou 4 millions de salariés. Derrière les chiffres abstraits de pourcentage, on ne mesure pas. Il y a à peu près 24 millions et quelques de salariés, une moitié de femmes. Donc sur 12 millions, quand on vous dit 20%, ça fait 2 ou 3 millions de femmes qui peuvent être concernées. Et je ne m'attendais pas à des résultats aussi massifs. C'est pareil dans les témoignages, on aurait pu croire qu'il y a des catégories socio-professionnelles plus défavorisées, plus en difficulté, les immigrés, le travail peu qualifié. Mais non, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel ou la souffrance au travail qui touche les femmes, on les retrouve à tous les âges, dans toutes les couches de la société et à tous les niveaux. Voilà. Et j'ai l'impression que les évolutions, évidemment il y a eu des acquis, il y a des choses qui sont gagnées, c'est indéniable, mais les retraites des femmes restent deux fois inférieures à celles des hommes. Elles représentent 80% du travail partiel subi. Elles sont beaucoup moins qualifiées, alors qu'elles sont meilleures à l'école a priori. Elles restent finalement cantonnées à un certain nombre d'emplois où elles sont subordonnées, où elles sont employées, où elles n'ont pas les responsabilités qu'elles pourraient atteindre. Voilà. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'on dit oui, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup avancé. les femmes ont acquis une légitimité à exister dans le monde du travail, mais elles sont vraiment très éloignées de l'égalité et de la parité. On sait que malgré les lois, l'inégalité salariale reste flagrante et qu'en moyenne, les femmes touchent 30% de moins que les hommes. Donc c'est vrai que j'ai un constat assez alarmiste, dire les choses bougent trop lentement.
Et est-ce qu'on a une véritable révolte, une véritable indignation par rapport notamment à cette inégalité salariale qui est des plus criantes, mais qui bizarrement semble être intériorisée comme une forme de, bon, bah de fatalité, de quelque chose qui serait entre guillemets normal, puisque c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire on a des débats publics, politiques, autour de cette inégalité salariale, mais on n'a jamais de réponse tangible à apporter en termes de correction de ces inégalités. On a un débat plus ou moins virulent sur cette question-là, mais cette discrimination faramineuse est celle qui pourtant est le moins débattue.
Je crois qu'il y a une responsabilité à la fois individuelle et collective dans cette situation. D'un point de vue individuel, d'abord les femmes sont écrasées par la double journée travail domestique, travail salarié. Alors avoir le temps en plus de se battre sur un troisième front, qui d'ailleurs est en corrélation avec ces deux fronts-là, c'est difficile. Il faut avoir une conscience politique. Or, comment l'avoir quand on est complètement écrasé dans des boulots précaires, pressurés par un monde du travail dominé par l'efficacité, la rentabilité? Donc bien sûr qu'il y a une responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité collective dans la mesure où au sein de l'entreprise, rien n'est fait pour qu'il y ait ni temps de réflexion, ni espace, ni temps de parole pour réfléchir à cette problématique que tu évoquais tout à l'heure, travail et démocratie. Donc il n'y a pas le lieu, il n'y a pas le temps, il y a un éclatement de toutes les structures de travail et de toute l'organisation du travail qui fait que comment peut-on se saisir concrètement du problème? Et puis les syndicats sont extrêmement démunis parce qu'ils ont l'habitude du travail collectif. Donc quand ils sont face à des cas individuels de discrimination, d'abord ce n'est pas leur objet de travail prioritaire. Je l'ai constaté récemment, ne serait-ce qu'à la mairie de Paris, où pour la première fois a été lancée une réflexion, alors non pas de la mairie de Paris, mais je parle d'un cas précis, donc je ne donnerai pas les détails, mais où en tout cas il n'y avait jamais eu de comité d'entreprise ou de syndicat qui travaille au sein d'un domaine particulier de la mairie de Paris sur cette question. Et donc les syndicats ne savent pas trop forcément par quel bout, je crois, aussi aborder la question. Ils ne savent pas répondre à la difficulté individuelle. Voilà, donc à tous les niveaux, au niveau de la personne, au niveau de l'employeur, qui n'est pas sensibilisé et qu'il n'y a pas d'intérêt, évidemment, à augmenter le salaire des femmes, au niveau des syndicats, qui ne savent pas comment faire non plus, je crois, individuellement, rien n'est fait pour que la question soit vraiment pensée et prise à bras-le-corps concrètement.
Parce qu'il y a un certain nombre de blocages presque structurels sur cette question. Imaginons, simulons qu'il y aurait une revalorisation, même négociable par branche, ou une revalorisation générique, générale des salaires des femmes. Ça mettrait donc les hommes, ou en tout cas dans cette aspiration légitime, eux-mêmes à demander un rehaussement de ces mêmes salaires. C'est-à-dire, on enterrit dans quelque sorte cette inégalité salariale parce que aussi une augmentation significative du SMIC, par exemple, telle qu'elle est préconisée par certaines forces politiques, ferait qu'entre le travail déqualifié et le travail qualifié, la marge se resserrerait de plus en plus et ça modifierait, ça décalerait toute la grille des salaires aussi, créant une situation quasiment apocalyptique par rapport au maintien des nécessaires inégalités salariales par lesquelles chacun a le sentiment, disons, de pouvoir se différencier socialement parlant. Ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur la notion au niveau sociopolitique, sur qu'est-ce que ça veut dire lutter contre les inégalités sociales. Ce n'est pas abroger ou supprimer les inégalités sociales, bien que ce ne soit jamais formulé comme ça. C'est surtout les réduire de telle façon que l'idée de démocratie est encore une légitimité.
Ça, c'est certain que politiquement parlant, ce serait sans doute assez explosif finalement de ramener les salaires des femmes au niveau des hommes. Et je pense que ce serait peut-être aussi difficile à envisager pour certaines femmes qui sont tellement soumises à ce conditionnement social qui commence dès l'enfance que finalement elles ne se considèrent pas réellement comme valant autant qu'un homme. et que pour la plupart des hommes, ça poserait aussi une grande difficulté psychologique, ils se sentiraient dévalorisés. Donc oui, il y a un obstacle psychologique. Et puis je pense qu'on répondrait, ça ne me paraît pas légitime, mais qu'on dirait, oh là là, l'économie va se casser la figure, vous vous rendez compte, au niveau de la masse salariale, il y a trop de charges, etc. Je pense qu'on objecterait aussi facilement que l'obstacle économique est intangible. Bon, pourtant, quand on paye un patron des millions, il n'y a pas d'obstacle intangible. Mais oui, je pense que ça soulèverait vraiment de grandes résistances que les femmes elles-mêmes n'ont pas l'habitude de se battre pour ça. Et que même certaines femmes de bonne foi qui peuvent être dans des postes à responsabilité ne mesurent pas la discrimination inconsciente qu'elles peuvent faire subir. Je donnerai un exemple autour de moi. Une amie qui part en congé maternité et quand elle revient pour son entretien annuel, qui est à la mairie de Paris, salariée de la mairie de Paris, sa chef, tout à fait sympathique, lui explique qu'elle ne peut pas avoir cette année la même notation que ses collègues puisqu'elle était en congé maternité et que donc on ne peut pas juger de son travail cette année. Voilà. Et la salariée lui rétorque, mais là tu es en pleine discrimination. Je suis punie et coupable d'avoir été enceinte et d'avoir été absente. Mais le reste du temps j'étais là et de toute façon ça fait partie de la grille des salaires. Il est absolument interdit de discriminer. Et cette chef n'était pas de mauvaise foi. Elle a totalement intégré, intériorisé toutes les différenciations salariales, de fonctionnement, que si on est absente pour un congé maternité, on est entre guillemets une mauvaise travailleuse ou une mauvaise salariée.
Et peut-être un autre point, c'est justement, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, hein, on pourrait peut-être en détailler quelques-unes si je les... Alors notamment... Alors, par exemple, sur la fondation continue, j'en détaillerai certaines. Lancer des campagnes d'information sur les dispositifs de la formation continue. Faire mieux connaître les lieux ressources orientateurs sur la formation continue. Créer une ligne téléphonique dédiée à la formation continue. Tout ça. Ces solutions-là ont été... Quel est le contexte de leur élaboration? Je pense aussi que ça fait c'est à partir de ce travail d'écoute, de recueil, pour essayer de voir là... où ça n'allait pas, comment on pouvait y remédier à travers un certain nombre de mesures légales. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le contexte d'élaboration de ces propositions? Parce qu'il y en a des dizaines. Donc,
Il y en a 147.
Voilà.
On aurait bien fait 150 pour que ce soit rond, mais ça aurait été artificiel. Il y en avait 147, on en a gardé 147. Oui, c'est exactement le processus que tu décris. C'est-à-dire qu'on avait un tableau à deux colonnes quand on travaillait en atelier avec donc, la sociologue Dominique Poggi, les femmes et moi-même. On avait deux colonnes. On disait, bon, alors l'âge, quels sont les constats? Quelles sont les difficultés? Alors moi, je n'arrive pas à trouver une formation. Moi, on m'a répondu qu'à 40 ans, j'étais travaillée dans le secrétariat. Moi, on m'a refusé tel aspect. Moi, je suis dispensée de recherche d'emploi. Je ne peux pas, etc. Donc, on identifiait les problèmes. Et puis, il y avait une autre colonne qui était propositions, remèdes, solutions, appelons-la comme on veut. Et on disait, bon, alors, comme vous allez à l'NPE, ils n'arrivent pas à comprendre vos difficultés en tant que femme de 45 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? À l'NPE, il faudrait qu'il y ait des conseillers qui soient spécialisés sur cette question, par exemple. Ou alors, je rentre, je suis écrasée par le travail domestique. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que ce travail il soit reconnu avec une manière de le financer par les employeurs. Voilà. Donc, ces propositions, elles sont vraiment nées à l'intérieur de l'atelier, à partir de toutes les insuffisances, les difficultés, les obstacles, les lacunes des femmes. Et puis après, il y a eu un travail complémentaire de fait, de regarder dans les autres pays ce qui était proposé, de s'en inspirer. Je pense au Canada, par exemple, qui, au niveau de la souffrance au travail et du harcèlement moral, a vraiment des dispositifs qui me paraissent, en tout cas, tout à fait novateurs et intéressants. Je pense à la Norvège, par exemple, sur les quotas. Cette semaine, le gouvernement propose une loi qui est appliquée depuis bien longtemps en Norvège. Voilà. Donc, ça a été une élaboration à la fois en atelier, à partir des situations concrètes vécues par les femmes, d'où toutes ces mesures très concrètes, très précises, et d'autre part, un travail de documentation, de comparaison, pour essayer de voir ce qu'on fait de mieux dans chaque domaine en Europe et comment on pourrait l'appliquer aussi en France.
Les pays les plus pionniers sont le Canada et les pays scandinaves en la matière?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que les pays scandinaves sont quand même très en avance sur l'égalité homme-femme. Pour eux, ça commence à la maternelle. Il y a vraiment toute une éducation qui se fait dès la maternelle. La Norvège, sur certaines questions, c'était en particulier celle des quotas dans les conseils d'administration pour imposer la parité sous peine d'amende. Le Canada, c'était sur la souffrance au travail, avec vraiment des dispositifs d'alerte et de prise en charge extrêmement précoces. Cela dit, le but n'est pas de multiplier les lois. Honnêtement, si on appliquait la loi, il y a tout ce qu'il faut en France. Si on appliquait la loi, il n'y aurait plus de harcèlement, il y aurait beaucoup moins de souffrance au travail, il n'y aurait pas d'inégalité salariale, qui est une discrimination interdite par la loi. On a les lois qu'il faut. Mais tant que vous aurez un inspecteur du travail et un médecin du travail pour 3 000 ou pour 18 000 salariés, les choses n'avanceront pas. Tant que l'inspecteur du travail, que le médecin du travail sera le salarié de son employeur, donc soumis à la pression et au rapport de force de tout salarié, ça n'avancera pas, malgré l'énorme travail qu'ils font. Donc on a des lois, on a des dispositifs, mais on ne se donne pas les moyens politiques et économiques de les faire appliquer. Voilà. Si on commençait par ça, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui avanceraient.
Surtout qu'on est dans un contexte de recul des droits sociaux par rapport au fait qu'on prendrait acte de déficits publics colossaux, d'une concurrence internationale au niveau économique impitoyable qui fait qu'on doit maintenant rogner davantage encore qu'on ne le faisait auparavant sur les salaires, et notamment la hausse significative des salaires. Donc on a bizarrement une difficulté à progresser concernant le travail des femmes qui s'inscrit dans une difficulté plus générale liée à la dégradation, pas simplement des conditions de travail, à la transformation des organisations du travail vers plus de flexibilité, vers plus de profitabilité. Donc on est peut-être dans un contexte très très de recul général quoi, des droits sociaux.
Alors le recul, il est massif, phénoménal et absolument collectif. On est bien parti pour revenir au 19e siècle hein, quand même. La scolarité à 16 ans, de nouveau les apprentis à 14 ans, donc on est dans des bons reculs. La retraite de plus en plus tardive, la sécurité sociale attaquée. Donc le contexte est celui d'un recul général extrêmement rapide et extrêmement violent. Oui. Tous les acquis de la libération et du programme national de la résistance sont complètement dévastés, balayés en quelques années.
On est dans une période un peu de restauration, mais des vieilles idées de nécessité. Oui. Aussi, hein, c'est-à-dire on faisait miroiter effectivement qu'il y aurait une émancipation progressive du travail, que nos sociétés étaient tellement opulentes et riches qu'on irait d'une manière inéluctable vers cette situation. Or, on constate que, pas simplement le débat qui a été fait, le procès qui a été fait aux 35 heures, qu'on est dans l'exaltation du surtravail, et qu'on va, plus on va vers la richesse vu le progrès, plus bizarrement la redistribution des fruits de cette croissance improbable, ou enfin de plus en plus intangible pour la plupart d'entre nous, nous amène à conception très travailliste, fin 19e art,
On revient au 19e siècle. Hein. Je pense que le caritatif a aussi de beaux jours devant lui, vu la démission généralisée de l'État. Il y a un retour en arrière phénoménal et il y a une dévalorisation du travail au moment où tout le monde exalte la pseudo-valeur travail. C'est tout le contraire dans la réalité. C'est-à-dire que quand vous avez des diplômés à bac plus 5 qui sont payés au SMIC pendant des années, qui naviguent de CDD en CDD et de stage en stage jusqu'à 30 ou 35 ans, qui ne peuvent donc rien construire socialement ni d'un point de vue personnel, on n'est pas dans la valorisation du travail comme on essaye de nous le faire croire. Le travail ne vaut plus rien, puisque s'il faut travailler plus pour gagner plus, ça veut bien dire que le coût du travail, que la valeur plutôt du travail est de plus en plus dévalorisée. Donc on est de toute façon dans un contexte extrêmement défavorable aux salariés, avec un rapport de force catastrophique tel qu'on n'en a pas connu depuis des décennies. Or, les premières victimes, ce sont toujours les femmes. Toujours. Elles sont toujours en première ligne. Quand il y a une régression sociale, elles sont toujours plus attaquées parce qu'elles sont plus vulnérables, parce qu'elles sont plus fragiles, parce qu'elles sont subordonnées, parce qu'elles subissent le travail précaire, parce qu'elles subissent le temps partiel, parce qu'elles ont des retraites minables. Voilà. Donc, dans un contexte de recul, on vous répond toujours que l'urgence n'est pas de se préoccuper de la situation spécifique des femmes. C'est toujours l'argument qu'on entend. C'est-à-dire, ça va tellement mal, on ne va pas en plus se focaliser sur cette catégorie. Voilà. Donc, ce sont toujours les femmes qui se prennent en pleine figure les effets d'une crise généralisée.
Alors maintenant, au niveau des suites, peut-être, puisqu'il y a eu ces propositions, qui sont soumis à la discussion. Dans ce processus de travail qui a été maintenant, qui a plusieurs années, hein, qui a commencé, c'était en 2004.
Il y a 2 ans, le projet s'est étalé sur 2 ans.
D'accord. Dans ce processus de travail, quel est maintenant un peu l'horizon qui se dessine pour ce collectif, hein, et qui s'est mis en place, et qui s'est concrétisé par cet ouvrage? Alors, est-ce qu'il y a la volonté, comment dire, de débattre dans l'espace public de toutes ces propositions,
Oui, le gros du travail maintenant, c'est la diffusion. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir aussi essaimer, aussi bien au niveau de la méthode qu'au niveau du questionnement, et qu'il y ait vraiment des prises de conscience qui se multiplient. Je ne crois pas qu'il va y avoir, une émergence massive et globale. Je pense que ce sont des foyers qui doivent un petit peu partout essaimer. Donc l'idée d'abord, c'est de diffuser le livre, à la fois par évidemment par les libraires, par des événements publics, par une couverture aussi médiatique, ce qui pour l'instant n'est pas le cas quand vous êtes un tout petit éditeur, que vous avez aussi bien sûr des frais de fonctionnement et que vous ne pouvez pas assurer une communication, il y a une sélection naturelle qui s'opère au niveau des médias. Donc ça, c'est un travail de diffusion à faire. Mais ce qui est surtout important, c'est que les femmes elles-mêmes continuent de porter cette parole dans l'espace public de deux manières. D'une part, en explicitant, en faisant connaître ce travail de coparticipation. Je crois que là, si ces femmes ont vraiment changé dans leur vie, de comportement personnel et professionnel, c'est parce qu'elles ont été actrices à part entière. On ne leur a pas demandé de témoigner et de repartir. Donc, il y a faire connaître cette méthode de travail qui n'a rien d'original, mais qui donne vraiment son sens au mot de participation, qui est un petit peu la tarte à la crème en ce moment.
Donc, c'est quand même assez original. Créer du collectif aujourd'hui, lorsque justement on ne l'inscrit pas dans une organisation préalable, c'est toujours une aventure risquée, et dont on constate que les effets peuvent être totalement étonnants et qu'on n'avait pas forcément prévu.
Je ferai une petite parenthèse sur la participation, qui est que maintenant, c'est un petit peu le leurre ou l'alibi de beaucoup de choses. Alors, on va consulter les habitants, on va consulter les différents groupes, on va consulter les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça derrière? Je crois qu'on a, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup à attendre des politiques publiques. Et je crois que c'est à chacun vraiment de porter cette parole et cette action concrètement. Donc ça, c'était vraiment le premier volet, faire connaître cette méthode de manière à ce qu'elle puisse donner des idées à d'autres. Et puis, l'autre volet du travail, c'est de porter dans l'espace public et en particulier politique ces propositions. Donc là, cette semaine, le gouvernement fait une proposition de loi qui est dans le livre. Ça montre qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque.
Notamment laquelle ?
Celle d'imposer dans les quotas des quotas de femmes dans les conseils d'administration et d'infliger des amendes aux entreprises qui ne le respecteraient pas. C'est fait en Norvège depuis bien longtemps. Au début, on va râler et puis on va mettre toujours les mêmes femmes dans 10 conseils d'administration. Puis on va finir par s'habituer quand même à ce qu'il y a des femmes dans les conseils d'administration. Donc, bon, le livre n'est pas trop à côté de la plaque, je pense. Mais la deuxième phase de cette diffusion, c'est vraiment d'aller interpeller tous les acteurs du monde du travail. Ça veut dire des élus, ça veut dire des maires, ça veut dire des conseillers en insertion, ça veut dire des directeurs d'ANPE, ça veut dire des assistantes sociales, et tous ceux qui sont en prise, les associations d'insertion, bien sûr, en prise sur le monde du travail. Il y a 147 propositions. Donc, c'est d'aller voir, par exemple, autour de la formation continue, il y a des propositions pour l'ANPE. C'est d'aller voir des ANPE, aussi bien des conseillers de base que des dirigeants d'ANPE, et leur dire, bon, qu'est-ce que vous... Enfin, Pôle emploi, pardon. Depuis l'apparition du livre, ce sont des pôles emploi. S'il y avait une proposition que vous deviez porter ou dont vous deviez débattre, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ce serait d'aller voir un maire et de dire, bon, si vous pouviez lutter contre une discrimination, là, sur ces 147 actions qui se déclinent elles-mêmes ensuite en sous-actions. Voilà. Si dans chaque lieu, on pouvait se saisir de ces actions qui ne sont pas des dogmes, qui ne sont pas des règles, qui ne sont pas des principes, qui sont des propositions. Si elles ne sont pas pertinentes et qu'on en trouve de meilleures, tant mieux. Mais que tous ceux qui sont en position soit de diffuser, soit de décider dans le monde du travail, puissent s'emparer d'un aspect ou d'un autre de la discussion et le mettre sur la place publique. Voilà.
Donc voilà, bon, je rappelle, je te remercie Nadine, donc pour ses propos sur le livre Exploité, le travail invisible des femmes. Alors bien évidemment, donc coordonné par toi, le concours et la collaboration de Dominique Poggi, et bien évidemment, toutes celles qui ont permis ce livre, donc je les citerai, hein, Béatrice Ball, Colette Coppens, la plupart des salariés ou des chômeuses, ou voilà, Béatrice Ball, Colette Coppens, Daniela Androcles, Coca Chalal, Malika Faustino dos Santos, Manuela Plaza, Monica Cyrano, Sadia Belkadi, Salema Toudieng, Yamina Thiar, ainsi que Amina, Angelina, Evelyne, Fatima, Françoise, Marie, Marie-Josée, Marine, Martha, Mazal, Myriam, Paquita, Salia, Véronique, Yasmine, Zahira. Et je signale également que nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours avec Nadine Jasmin, mais également avec Colette et Kouka. Colette Coppens et Kouka Chalal, qui ont participé bien évidemment activement aux ateliers de parole et à ce livre, pour aborder un certain nombre d'aspects plus particuliers dont nous avons pu nous entretenir ensemble aujourd'hui. Voilà, donc merci, et je rappelle le titre du livre, Exploiter le travail invisible des femmes, par Nadine Jasmin, aux éditions Les Points sur les i.
Merci Gilles.